Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur Radio Territoria.
Et bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle émission du MAG de l'aménagement du logement et de la nature pour un nouveau numéro consacré au suivi de l'occupation du sol avec l'OCHGE pour aménager et préserver les territoires. Et pour en parler, plusieurs invités en plateau ce matin. Pascal Lory, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller information géographique et spatiale auprès de la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature. Et vous êtes tout particulièrement en charge du dispositif de mesure de l'artificialisation des sols, dont vous êtes d'ailleurs le directeur. Avec nous également Adeline Coupé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet à l'IGN, l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, et vous pilotez notamment la production des données de l'occupation du sol à grande échelle. Et aussi à distance avec nous Serge Review, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géomaticien et responsable du pôle ressources collectives à l'ORCA, l'agence d'urbanisme catalane. Merci à tous les trois d'être présents. Et comme sur chacune de ces émissions, je suis également accompagné d'Hélène Parmentier. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Vous êtes chargé de mission mobilisation des territoires au sein de la DGALN, au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Et vous relayerez évidemment tout à l'heure l'ensemble des questions posées par nos auditeurs, puisque je vous le rappelle, cette émission est en live et vous pouvez donc réagir en posant directement vos questions sur le chat. Alors la France s'est fixée dans le cadre de la loi Climat Résilience adoptée en 2021 l'objectif d'atteindre le zéro artificialisation nette des sols en 2050 avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici à 2031. La mise en mouvement vers cet objectif nécessite évidemment de pouvoir mesurer l'artificialisation des sols et c'est l'objet du portail du même nom qui a déjà fait l'objet d'émissions du MAG, dont la dernière a eu lieu en octobre 2024, que vous pouvez d'ailleurs toujours retrouver en podcast. Et nous allons voir aujourd'hui les avancées finalement d'un projet emblématique du portail de l'artificialisation des sols. Et je veux parler du référentiel national d'occupation des sols, l'OCHGE. Comment définir et mesurer l'artificialisation et les surfaces artificialisées avec l'OCHGE? Où en est la production de l'OCHGE et comment le produit-on? Au-delà de la mesure de l'artificialisation, quels sont également les autres usages de l'OCHGE? Et c'est à ces questions que nous allons répondre de suite avec nos invités. Et pour commencer, Pascal Lory, peut-être vous pouvez nous rappeler les enjeux associés à l'artificialisation des sols.
Mais bien sûr, Jean-Baptiste. Donc l'artificialisation est un phénomène diffus, phénomène clairsemé, mais représentant en surface environ 20 000 hectares par an en France ces dernières années. Donc pour se le représenter, c'est un peu plus que de 3 terrains de football par heure. Alors nous pourrions nous dire que c'est peu ou beaucoup en fonction des points de vue rapportés au territoire national, mais les impacts sont forts et souvent irréversibles. Donc sur 10 ans, c'est tout de même presque la superficie du département des Yvelines qui a été artificialisée. Il y a donc urgence à agir. Alors quelles sont les conséquences? Donc les conséquences sont d'abord écologiques, donc érosion de la biodiversité, aggravation du risque inondation par ruissellement, notamment du fait de l'imperméabilisation des sols, limitation du stockage carbone, mais aussi socio-économique, avec le coût des équipements publics, du fait de l'étalement urbain, augmentation des temps de déplacement et de la facture énergétique des ménages, du fait de trajets domicile-travail qui sont plus importants, dévitalisation des territoires en déprise, diminution du potentiel de production agricole, avec donc un sujet de souveraineté alimentaire.
Alors, on va préciser encore un peu plus ce dont on parle. Et comment est-ce que finalement, on réussit à déterminer si une surface est artificialisée ou ne l'est pas?
Alors, vaste sujet qui s'est clarifié, heureusement, ces dernières années, grâce à la législation. Alors, je tiens tout d'abord à rappeler l'existence d'un guide synthétique et de ses fascicules qui précisent ces questions de doctrine, de législation, de réglementation et de bien d'autres choses sur la planification de la réduction de l'artificialisation, sur les leviers à mobiliser, sur l'accompagnement des collectivités. Donc tout cela se trouve sur le portail de l'artificialisation des sols, donc artificialisation.développement-du6durable.fr. La seconde chose à préciser, c'est la différence entre, question que beaucoup de gens se posent, hein, entre la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, communément appelée ENAF, consommation d'ENAF, pour laquelle un objectif intermédiaire de réduction de moitié donc, a été fixé d'ici à 2031, et l'artificialisation des sols. Donc, quelle différence entre artificialisation et consommation ? Donc, la consommation d'ENAF est entendue comme la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné. Donc là, c'est vraiment la loi qui établit cela. Hein, c'est l'article 194 de la loi Climat et Résilience. Donc, il s'agit d'une définition qui est somme toute assez souple et qui est appuyée sur un changement d'usage du sol, donc de NAF, c'est-à-dire naturel, agricole et forestier, à urbanisé. Concernant l'artificialisation des sols, la loi Climat et Résilience de 2021 a introduit une définition claire. Puis, le décret du 27 novembre 2023 a précisé la nomenclature des surfaces artificialisées. Et donc, les surfaces terrestres sont qualifiées comme artificialisées ou non artificialisées selon les catégories et les seuils établis dans cette nomenclature qui est annexée donc à l'article R101-1 précisément, hein, donc du Code de l'urbanisme. Alors, sont qualifiées de surfaces artificialisées celles qui sont soit imperméabilisées en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisées et compactées. Les surfaces végétalisées herbacées qui sont soit à usage résidentiel, donc le jardin de ma résidence par exemple, de production secondaire ou tertiaire ou d'infrastructure. Et enfin donc les surfaces entrant dans ces catégories mais qui sont en chantier ou à l'abandon. Et par ailleurs, sont qualifiées de non artificialisées, donc celles qui sont soit naturelles, nues ou couvertes d'eau, soit végétalisées, constituant un habitat naturel, ou utilisées également à usage de culture. Donc, y compris les surfaces d'agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l'espace urbain. Et les surfaces à usage de culture agricole qui sont en friche. Autre point important, donc les seuils de référence à partir desquels peuvent être qualifiées les surfaces ont été donc précisés dans ce décret du 27 novembre. 50 mètres carrés pour le bâti et 2500 mètres carrés pour les autres catégories de surface, 5 mètres de large pour les infrastructures linéaires. Donc je rappelle que cette nomenclature s'applique à partir de 2031, ce qui n'empêche pas de commencer évidemment à s'acculturer dès aujourd'hui à cet indicateur.
Alors une fois qu'on a posé justement les définitions, comment est-ce qu'on fait pour mesurer et suivre cette artificialisation des sols ?
Alors la mesure est un sujet qui a toujours été très délicat. Comme il est ténu et clairsemé, le phénomène n'est pas simple à identifier puis à mesurer. Donc c'est la raison pour laquelle, pour piloter la politique publique de lutte contre l'artificialisation des sols et suivre ses impacts, l'État a besoin d'un dispositif de mesure fiable, précis et homogène sur tout le territoire national et donnant des indications d'évolution. C'est surtout ça qui est important, hein, c'est l'évolution de l'artificialisation à un rythme régulier. Donc la DGALN, en coordination avec le ministère de l'Agriculture, a construit donc ce dispositif dès 2018, en s'appuyant sur les opérateurs de l'État que sont l'IGN et le CEREMA. Donc une mesure, pour ce qui concerne la consommation d'ENAF, donc une mesure de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est disponible, hein, sur le portail national de l'artificialisation des sols, donc ça depuis dès 2019, en fait, dès l'ouverture du portail.
Et on rappellera son adresse tout à l'heure, il est mentionné également sur le chat.
Elle est réalisée donc à partir des fichiers fonciers, hein, qui sont produits à partir des données de la DGFiP, hein, les fichiers magiques. Ces fichiers fonciers donc sont retraités par le CEREMA et donnent donc une mesure de cette consommation d'ENAF. Néanmoins, des données locales peuvent, le cas échéant, être utiles pour compléter cette mesure de la consommation d'ENAF effectuée nationalement. Alors, pour ce qui concerne la mesure de l'artificialisation, donc comme je le disais, il est indispensable de disposer d'une base de données, d'un référentiel à grande échelle, agile et cohérent donc avec la définition précisée dans la loi. Mais également, c'est ce que stipule en tout cas le décret de 2023, une base de données qui soit conforme à la directive européenne INSPIRE de 2007 et aux recommandations du CNIG, donc le Conseil national de l'information géolocalisée. Alors c'est la raison pour laquelle l'État a retenu l'OCSGE, hein, qui est conforme à cette directive européenne et conforme aux recommandations du CNIG. J'en profite au passage pour évoquer aussi la solution Mondiagartif, hein, qui met à disposition de tous un diagnostic de consommation et d'artificialisation qui est justement basé sur les données nationales que j'évoque, hein, fichiers fonciers et OCSGE. Donc l'OCSGE constitue le référentiel national pour le pilotage de cette politique publique de lutte contre l'artificialisation des sols. Toutefois, au-delà de la sobriété foncière, ces utilisations peuvent être multiples. Notamment, certaines de ces composantes vont permettre de répondre au règlement européen de restauration de la nature, le RRN, donc, qui est paru en juin 2024, pour en particulier la mesure des espaces verts et de la canopée au sein des écosystèmes urbains, ou faciliter le calcul de certains indicateurs comme l'imperméabilisation des sols, qui est exigé dans le cadre de la directive relative à la surveillance et à la résilience des sols, qui a tout juste été validée donc, le 24 octobre 2025 par le Parlement européen. Tout ça pour ne citer que quelques utilisations. Donc il est essentiel de comprendre que l'OCSGE a été conçu comme un socle national minimal sur lequel des enrichissements locaux peuvent être apportés et ainsi répondre à de multiples politiques publiques, notamment localement. Je crois que mes collègues reviendront sur ces points.
En tout cas, merci pour ces larges explications. Et je vais me tourner maintenant vers Adeline Coupé. On revient donc à l'OCSGE. Est-ce que vous pouvez tout simplement, peut-être dans un premier temps, nous expliquer de quoi il s'agit très concrètement? Comment ces données sont-elles finalement produites? Et quels défis vous avez dû relever, notamment pour les produire?
Alors, l'OCSGE, c'est une base de données géographique qui permet de décrire finement le territoire, tous les 3 ans. On va pouvoir le décrire en 2 dimensions. Une dimension couverture, qui va permettre de répondre à la question « que voit-on ?» et la dimension usage, qui va permettre de répondre à la question « à quoi ça sert ?». Et le territoire est ainsi décrit en 14 classes de couverture et 20 classes d'usage. Ces données, elles ont été produites grâce à un processus de production qui s'appuie en partie sur l'intelligence artificielle. Le modèle d'intelligence artificielle développé, c'est un modèle d'apprentissage profond qui, à partir des données socles, donc issues de prises de vue aériennes en haute résolution, va permettre de déterminer la couverture du sol. Est-ce que c'est de la forêt, des bâtiments, des terres agricoles? On fait ensuite un croisement avec d'autres données, comme les fichiers fonciers ou le registre parcellaire graphique, le RPG, qui vont permettre de déterminer, cette fois-ci, l'usage du sol. Ce premier produit, donc, qui est créé automatiquement, fait ensuite l'objet d'une phase de photo-interprétation. On a des opérateurs qui vont pouvoir ajuster les données de couverture et d'usage. Et enfin, donc, ce produit résultant est soumis également aux contributions des utilisateurs locaux lors de boucles de correction avant d'être diffusé à tous. Donc les utilisateurs locaux vont pouvoir améliorer encore la qualité du produit grâce à leur connaissance du territoire. D'un point de vue technique, c'est un défi majeur car le modèle d'intelligence artificielle doit pouvoir traiter des environnements urbains ou naturels qui sont assez différents et aussi une nature changeante suivant les saisons. Ça nécessite aussi de pouvoir bénéficier d'une capacité de calcul suffisante pour pouvoir faire tourner le modèle. Un autre défi, c'est l'animation des boucles utilisateurs. Et on peut noter une forte mobilisation lors des premières boucles de correction, ce qui a permis de renforcer la qualité du produit. Et on a donc eu plus de 160 signalements sur les 2 premiers millésimes de l'OCSGE.
160 000, c'est ça?
160 000.
Ok. Et justement, est-ce que ces données OCSGE sont aujourd'hui disponibles? Et est-ce qu'il y a un calendrier également du déploiement? L'OCSGE sera-t-elle également mise à jour?
Oui, tout à fait. Donc, les données OCSGE sont aujourd'hui disponibles sur l'ensemble du territoire français en 2 millésimes. Les utilisateurs peuvent les retrouver sur le site geoservices.ign.fr en téléchargement. Ils sont également visualisables sur le géoportail de l'IGN. La production du troisième millésime de l'OCHGE a débuté mi-avril avec trois départements pilotes, le 17, le 66 et le 38. Le processus de production de ce nouveau millésime prévoit la mise à jour des données du millésime 2 par photo-interprétation dans les zones de changement qui, elles, sont déterminées automatiquement. Ou alors, c'est aussi sur les zones sur lesquelles les utilisateurs locaux nous ont signalé des erreurs. Ça permet de garantir la stabilité entre le deuxième et le troisième millésime.
Évidemment. L'OCHGE permet de calculer aussi les surfaces artificialisées, mais est-ce que vous proposez directement ces surfaces ?
Oui, ces surfaces artificialisées, elles ont été produites également sur l'ensemble des départements pour les deux millésimes. Elles ont été produites en respectant les règles du décret du 27 novembre 2023 relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols, qui définit notamment selon les types d'espaces leur classement en artificialisé ou en non artificialisé. Les données sont disponibles également sur le site geoservices.ign.fr et sur le site du Geoportail. Et les flux d'artificialisation, donc entre les deux millésimes, ont également été produits et diffusés sur le site geoservices.ign.fr.
Et j'en profite pour dire qu'effectivement, on retrouve ces adresses hein, sur le chat. Et puisque vous parliez à l'instant du fameux décret du 27 novembre 2023, il évoque, lui, les installations de production d'énergie solaire photovoltaïque et les parcs et jardins publics. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que le dispositif prévoit, justement, sur ce sujet-là, précisément ?
Oui, alors les surfaces végétalisées à usage de parcs ou de jardins publics, quel que soit le type de couvert, donc boisé ou herbacé, pourront être considérés comme étant non artificialisés, ce qui permet ainsi de valoriser ces espaces de nature en ville. Il en sera de même pour les surfaces végétalisées sur lesquelles sont implantées des installations de panneaux photovoltaïques, à condition qu'elles respectent des conditions techniques qui garantissent qu'elles n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol ainsi que son potentiel agronomique. Pour pouvoir calculer les surfaces artificialisées en tenant compte de ces exemptions, deux bases de données ont été produites. Une base qui permet de disposer des parcs et jardins publics et une seconde qui permet de disposer des parcs photovoltaïques au sol, on appelle PV-sol, et ça sous deux millésimes. La base de données des parcs et jardins publics a été produite à partir de la base de données BD Topo de l'IGN qu'on a enrichie grâce aux contributions des utilisateurs. C'est ainsi 4200 emprises de parcs supplémentaires qui ont pu être collectées grâce aux utilisateurs. La base de données PV Sol, quand elle a été construite grâce à une détection automatique des emprises au sol par intelligence artificielle et photo-interprétation, et en complétant grâce aux déclarations des porteurs de projets au travers du site Démarches Simplifiées. Ces deux bases sont déjà diffusées et disponibles sur le site geoservices.ign.fr. Elles vont permettre de calculer les surfaces artificialisées et le flux d'artificialisation avec exemption d'ici la fin de l'année 2025.
Eh bien, merci, c'est parfaitement clair. On va s'en aller du côté de Perpignan, enfin, pas tout à fait loin. Je me tourne maintenant vers Serge Hervieu. Dans les Pyrénées-Orientales, vous avez mis en place un projet s'appuyant sur l'OCHGE. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous en parler ?
Alors oui, nous, on est un territoire qui n'avait pas ou très peu de données d'occupation du sol sur plusieurs millésimes sur le département. Donc, quand l'OCHGE de l'IGN est arrivé, on y a vu une opportunité de doter nos territoires de cet outil de mesure de ces évolutions. Et puis, cette opportunité technique, elle a été aussi portée par la loi Climat et Résilience, qui a en quelque sorte facilité, qui a été un levier pour les financements des collectivités. Et moi, en tant qu'animateur du groupe de travail sur l'occupation du sol d'OpenIG, donc OpenIG, c'est la plateforme régionale de l'information géographique en Occitanie, c'est une association loi de 1901. Donc, quand j'ai soumis cette idée au groupe, elle a été très bien accueillie. Et ensuite, c'est Florence Rissot, qui est le chef de projet géomatique et occupation du sol à OpenIG, qui a vraiment animé le projet pendant plus de 2 ans. Il a organisé une dizaine d'ateliers thématiques, il a organisé le contrôle qualité collaboratif, et il a géré toute la partie administrative et financière. Donc ce projet, il s'appelle OCSID pour occupation du sol interdépartemental, et on l'a organisé en deux grands axes. Donc d'abord, on a réalisé de manière collaborative une nomenclature adaptée à la région et à nos besoins locaux. On est parti de la base de l'OCSGE, et on l'a enrichi pendant les ateliers dont je parlais tout à l'heure. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ajouté 23 nouveaux postes sur la dimension couverture et 15 nouveaux postes sur la dimension usage. Donc ça, c'était la première partie. Et la seconde partie, c'était la mise en production de la donnée elle-même. Donc ça a été fait sur deux départements, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, et sur deux millésimes, 2021, donc c'est là qu'on a repris le CSGE, et un millésime ancien, 2012. Donc ça a été financé par 10 collectivités, l'État, la région et le FEDER. Donc en chiffres, ça représente à peu près 365 000 euros pour 2 millésimes sur 10 600 km². Ça fait à peu près 32 euros du km². Donc ça, on comptait le contrôle qualité externe, et ça a été financé à plus de 50% par le FEDER. Sachant qu'une mise à jour, là, actuellement, on est en train d'essayer de refaire un tour de table financier, coûterait entre 10 et 15 euros du km². Et puis, donc, l'intérêt de tout ce travail préalable de cette première production, c'est vraiment dans un cadre de mutualisation. Ça permet maintenant de reproduire le projet si d'autres territoires d'Occitanie veulent se lancer.
Serge Hervieux, c'est quoi les usages des données produites? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets qui vont pouvoir parler à tout le monde?
Alors oui, pour l'instant, on a deux usages principaux qui concernent les mesures de consommation d'espace, puisque c'est d'actualité. D'abord, sur les territoires où on n'a pas l'OCSID, puisqu'on travaille sur les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault. Donc sur l'Hérault, on n'a pas l'OCSID, on a uniquement l'OCSGE. Donc on a mis en place une méthode qui a été largement inspirée des travaux de nos collègues de l'Agence d'urbanisme de Toulouse, l'AUAT. Donc cette méthode, elle permet de mesurer la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers sur la base de la nomenclature nationale de l'OCSGE. Les définitions de ces espaces consommés, on les a ensuite fait valider par nos services d'État locaux, donc notre DDTM, sur ce qu'on appelait une doctrine locale qui s'appuie sur la doctrine nationale. Donc par exemple, on exclut les objets agricoles, on exclut les objets éoliens, ou par exemple les terrains de loisirs sont aussi exclus des mesures de consommation d'espace. Donc ça, c'est sur les territoires où on n'a pas de CSID, sur les territoires où on a les données au CSID, et où la temporalité, où c'est le bon moment pour le mettre en place. Donc on met en place des méthodes de mesure de consommation d'espace qui s'inspirent de la méthode dont je parlais juste avant. Et aussi, ça nous permet de produire donc les mesures de consommation d'espace, ça nous permet de produire les enveloppes urbaines pour compter ce qui est dans et hors enveloppe urbaine, et on identifie aussi les dents creuses qui serviront ensuite pour les études de densification dans les documents d'urbanisme. Mais on réfléchit aussi à des méthodes de production de millésimes intermédiaires sur des bases d'images satellites, parce que les documents d'urbanisme, ils ont besoin de dates précises de mesures d'évolution qui ne correspondent pas forcément aux dates des millésimes de l'OCSGE ou de l'OCSID. Et puis, on va bien sûr décliner cette méthode, cette donnée sur la mesure de l'artificialisation, puisque les données OCSID sont compatibles et imbriquées dans la donnée OCSGE. On peut reproduire la détection des objets artificialisés avec la définition du décret d'application de la loi climat et résilience. Et puis, on a d'autres usages, d'autres cas d'usage qu'on essaie de mettre en place. Par exemple, on essaie de mettre en place un observatoire local de la consommation d'espace et de l'artificialisation en s'appuyant sur ces données. Donc, l'idée, c'est de suivre et de financer les mises à jour de cette donnée, mais c'est aussi d'animer beaucoup d'animations, donc des ateliers de prise en main, des formations, la mise en place d'indicateurs dans tous les domaines possibles, environnement, habitat, agriculture. On a notamment, lors de la mise en place de la nomenclature, identifié des croisements donc entre la couverture et l'usage qui pouvaient répondre à des besoins particuliers. Donc un travail spécifique a été fait sur les friches agricoles à la demande des deux conseils départementaux qui ont financé pour ça. Mais on peut aussi identifier par exemple les terrains de loisirs potentiellement cabanisés ou le maraîchage, les formes urbaines d'habitat individuel, dense ou diffus, collectif, les jardins familiaux et ouvriers ou encore les zones incendiées qui ont été détectées. Et puis, il y a bien sûr les cas d'usage classiques de ce type de données d'occupation du sol. Donc, elles peuvent servir de données d'entrée pour identifier les corridors écologiques ou les réservoirs de biodiversité, identifier les friches agricoles qui redeviennent naturelles pour les nouveaux espaces naturels, les zones artificialisées imperméables pour le risque inondation, l'évolution de la végétation pour le risque incendie, ou encore le gain ou la perte de végétation qui peut alimenter les indicateurs d'émissions ou de puits de carbone. Et puis, on a aussi imaginé d'autres usages potentiels pour les caractérisations de linéaires de chemins de randonnée, par exemple. Et puis, ça peut servir de données d'entrée pour de la modélisation, de la prospective ou des calculs d'impact des risques naturels. Donc, ça, c'est vraiment de la recherche et développement. Et puis pour finir, ce que je peux citer aussi, c'est le fait que ces données au CSID, enfin le travail qui a été fait dessus, va servir à corriger la donnée mère au CSGE. Donc là, sur la correction collaborative avec l'IGN, donc ça va boucler la boucle, c'est-à-dire qu'on se sera servi de l'OCSGE pour produire le CSID qui servira à son tour à amener des corrections à l'OCSGE. Donc on espère que ça sera un exemple de projet exemplaire sur l'articulation des données locales et nationales. Et puis on a toujours en arrière-plan l'idée d'utiliser de manière efficiente l'argent public sur ce type de projet.
Eh bien, un grand merci, c'était pour le coup hyper concret. Je rappelle à tous nos auditeurs que vous retrouverez toutes les ressources dont on a parlé ce matin sur le portail de l'artificialisation des sols, dont on vous a mis le lien sur le chat. Allez, je le rappelle, https://artificialisation.development-du-rable.gouv.fr. Et si vous souhaitez en savoir plus, d'ailleurs, un webinaire sur le sujet est organisé, ce sera le 13 novembre prochain. Hélène, d'ailleurs, vous met le programme et le lien d'inscription également dans le chat. Hélène, je me tourne justement vers vous pour savoir s'il y a des questions qui ont été déposées sur le chat.
Et oui, Jean-Baptiste, elles sont nombreuses ce matin, regard du sujet. Je pose la première question, alors qui va rassurer peut-être et qui est très pratico-pratique. Est-ce que les terrains de golf sont bien considérés comme des terrains artificialisés ?
Qui veut répondre ?
Alors, les terrains de golf sont-ils considérés comme artificialisés ? À la lecture du décret du 27 novembre 2023, on peut considérer que oui, c'est... Alors, peut-être qu'il faut distinguer... Alors, tout ce qui est pelouse, effectivement, surface enherbée à usage tertiaire, donc c'est de l'artificialisé... tout ce qui est évidemment locaux, bâtiments liés au golf également, toute la voirie d'accès aussi, c'est même des surfaces imperméabilisées, donc je pense qu'on peut répondre sans trop hésiter que les golfs sont bien des surfaces artificialisées, oui.
Une autre question, Hélène.
Oui, je poursuis. Alors, avec un auditeur de la région Grand Est qui nous partage que voilà, dans la région, il y a une base de données locale existante qui est produite par la région en collaboration avec les services de l'État. Comment cette base, elle va être adaptée au déploiement de l'OCSGE, pardon. Alors Serge, j'ai expliqué un petit peu comment ça se passe dans les Pyrénées. Mais...
Excuse-moi Hélène, c'est de quelle région s'agit-il ?
Grand Est. Ouais.
Écoutez, je pense que le modèle présenté par Serge Hervieu sur une partie de la région Occitanie est un modèle intéressant à reproduire sur d'autres régions. Hein. La donnée OCSGE, c'est une donnée socle. C'est conçu comme ça, c'est une donnée socle qui comprend assez peu finalement de classes de couverture et assez peu de classes d'usage. La nomenclature du CNIJ, elle est beaucoup plus développée en termes de nombre de classes de couverture et d'usage. C'est sur cette nomenclature CNIJ que s'est appuyé l'ORCA et OpenIG pour aller plus loin en raffinement de cette nomenclature. Je pense que c'est un bon modèle à reproduire et c'est très très inspirant. Ça devrait être très très inspirant pour les autres régions.
J'ai mis d'ailleurs des ressources utiles sur leur cas dans le chat. Après, et Serge,
je peux répondre un petit peu sur la région Grand Est où ils ont effectivement fait. Il y a pas mal de régions qui avaient fait des grandes occupations du sol régionales en même temps ou avant l'OCSGE. Donc certaines, alors je ne sais plus si c'est le cas pour l'OCSGE, mais il me semble le Grand Est, mais il me semble qu'ils ont aussi deux dimensions. Et en fait, pour ces territoires-là, l'enjeu, c'est de faire correspondre la définition du décret pour la mesure de l'artificialisation. C'est ça leur principal enjeu. Et la plupart du temps, c'est possible, surtout s'il y a deux dimensions. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il doit y avoir une articulation quand on travaille localement. Après, sur la consommation d'espace, en fait, ces données servaient déjà à la mesure de la consommation d'espace depuis très longtemps, donc elles continueront à le faire.
Une autre question, Hélène ?
Une question peut-être plutôt pour Adeline. Comment concrètement contribuer aux boucles de consolidation du troisième millésime ? Quelle démarche entreprendre ? Et comment savoir aussi peut-être quand se déroulent les travaux dans son territoire ?
Alors du coup, on a mis en place un outil sur Grist qui permet en fait d'être inscrit sur une liste de diffusion et donc de savoir quand démarrent les boucles de consolidation et quand est-ce qu'elles se terminent. Et on a aussi mis en place donc un espace collaboratif sur lequel il faut s'inscrire si l'on souhaite contribuer. Toutes ces informations-là, vous pouvez les retrouver sur le portail de l'artificialisation, donc avec les liens pour s'inscrire sur le GRIS qui permet de savoir donc les dates de début et de fin, et aussi toute la documentation est à cet endroit, et comment s'inscrire sur l'espace collaboratif. Et vous allez pouvoir aussi retrouver sur le portail de l'artificialisation une carte qui permet de visualiser quels sont les départements sur lesquels les boucles de consolidation ont déjà démarré.
Merci Adeline. Allez, on a le droit peut-être à une dernière question quand même.
Oui, alors peut-être une question pour Serge. Sur les travaux que vous nous avez présentés, Serge, est-ce que vous pouvez partager à nos auditeurs le temps que cela a pris à votre collectif de travail et puis peut-être les compétences qui sont nécessaires?
Alors, c'est un projet qui a pris entre 2 et 3 ans, entre l'idée et la livraison des données. Donc le temps, c'est surtout, enfin il y a le temps de Florence Ruisseau dont je parlais tout à l'heure, le chef de projet, qui lui a passé pratiquement un temps plein pendant 2 ans, hein, donc là-dessus, sur les parties animation, organisation, là quand il faut faire des demandes FEDER, c'est des choses qui sont assez longues par exemple, et ensuite sur les ateliers thématiques, ben justement c'est d'arriver à regrouper plein de compétences différentes pour réfléchir à des nomenclatures, enfin un enrichissement de la nomenclature qui soit cohérent avec les besoins locaux, qui soit cohérent avec les financements qu'on peut avoir, parce qu'il y a des choses qui sont trop chères à produire, par exemple, de manière à ce que la donnée réponde vraiment aux enjeux pour lesquels elle est faite. Donc voilà, c'est ça. Et puis ensuite, voilà, moi j'ai animé aussi un peu au niveau technique, et là c'est pareil, c'est d'arriver à avoir une vision un peu globale et de passer du temps à comprendre les besoins, et puis ensuite il y a pas mal de temps à passer sur les corrections, la validation des données, et puis bien sûr derrière la déclinaison sur les projets, sachant qu'on fait attention, enfin on l'a pas encore tout à fait, pour l'instant on peut télécharger les données, c'est un open data, mais on va mettre aussi à disposition sur la plateforme OpenG des produits dérivés pour que les gens puissent l'utiliser de manière plus simple que les données de base qui ne sont pas forcément évidentes à utiliser de suite comme ça, quand on n'est pas géomaticien, par exemple.
Par exemple. Merci d'avoir répondu gentiment à nos questions. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci Hélène. On se retrouve très vite. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs. Pour retrouver cette émission, vous pouvez la trouver en podcast sur le site de l'application de Radio Territoria. Et nous, on se retrouve très vite. Merci de votre fidélité. Ciao, ciao. Salut.
Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. À réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.